Bonjour Christelle.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une ce matin, une troisième dose obligatoire pour tous les soignants à partir d'aujourd'hui. Le Covid est toujours sur un plateau haut et les réinfections se multiplient. Nous verrons pourquoi dans un instant. D'abord les autres titres, Christelle.
Bloody Sunday, le dimanche sanglant nord-irlandais. Il y a 50 ans, 13 civils avaient été tués par l'armée britannique à Derry. Aujourd'hui encore, les deux communautés catholiques et protestantes ont du mal à vivre ensemble. Marine Le Pen, tu l'aimes ou tu la quittes? C'est en substance le message que la candidate excédée par les défections a fait passer à ses troupes. L'homme qui s'était évadé d'un hôpital psychiatrique à Toulouse a finalement été arrêté à Paris. Dans ce journal, quand des génies se tutoient et se répondent, Yves Saint-Laurent s'est beaucoup inspiré de la peinture pour embellir la femme. 6 musées parisiens lui consacrent une exposition. Lui, il entrera peut-être définitivement dans l'histoire du tennis tout à l'heure. Raphaël Nadal est tout proche de remporter son 21e titre en Grand Chelem, derrière lequel courait aussi Djokovic. Le journal des sports avec Laetitia Bernard.
Et dans 20 minutes, notre invité ce matin, un candidat à l'élection présidentielle, Philippe Poutou, au nom du NPA, le nouveau parti anticapitaliste.
France Inter.
Le Covid entre détente et restrictions, les règles n'arrêtent pas de changer. Mercredi prochain, bas les masques en extérieur, plus de télétravail obligatoire et plus de jauge. Mais dès aujourd'hui, les soignants doivent avoir reçu leur troisième dose de vaccin pour pouvoir exercer. Dans le cas contraire, ils seront suspendus sans rémunération. Mais beaucoup, beaucoup sont déjà en règle, Anne-Laure Danier.
Plus des trois quarts des soignants qui peuvent faire leur dose de rappel ont franchi le pas. D'après les derniers relevés de Santé publique France, les plus en avance, ce sont les professionnels libéraux. Un peu moins de 14% des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, des kinés, des pharmaciens, bref tous ceux qui exercent en ville et qui n'ont pas été infectés récemment, doivent encore faire cette dernière dose. Dans les EHPAD, dans les hôpitaux et dans les cliniques, plus d'un salarié sur cinq n'a pas encore fait son rappel. Alors ces soignants ont un peu de temps pour prendre rendez-vous avant d'être suspendus puisque ce sont les mêmes délais que pour le pass vaccinal. Ils ont 7 mois maximum après la dernière injection, un délai qui va se réduire à 4 mois à compter du 15 février.
Aujourd'hui, 78% des Français présentent un schéma vaccinal complet, mais le niveau d'infection reste sur un plateau haut, avec 346 000 nouveaux cas en moyenne sur les 7 derniers jours. On connaît tous quelqu'un qui a eu le Covid ces dernières semaines, et les cas de réinfection se multiplient. Une infection au printemps dernier ne met pas à l'abri pour cet hiver. Alors faisons le point avec vous, Véronique Julia, bonjour.
Bonjour.
Combien y a-t-il de réinfections précisément ?
Eh bien, pour l'instant, Santé publique France reconnaît que c'est un vrai sujet, mais l'institution travaille à collecter et à analyser les informations. Pas encore de chiffres précis sur le nombre de Français touchés plusieurs fois. Une note de synthèse est en préparation. L'évidence, en tout cas, c'est que ce qui était très rare il y a encore quelques mois semble en effet devenu assez courant, même parmi ceux qui ont eu leur schéma vaccinal complet avec la dose de rappel. Delta puis Omicron ont clairement changé la donne, et Omicron beaucoup plus encore que Delta. Après une première infection, la probabilité de réinfection avec Omicron serait en effet 3 à 8 fois supérieure par rapport à Delta. Ce sont les données internationales qui le disent.
Et comment ça s'explique ?
En fait, il faut considérer qu'avec Omicron, on est un peu comme face à une nouvelle maladie. Ces mutations sont plus nombreuses et ce variant présente ce qu'on appelle un échappement immunitaire. Il résiste en partie à la protection conférée par le vaccin ou par une première infection. On l'a vu d'ailleurs sur un certain nombre d'études. 2 doses de vaccin protègent très peu, 3 doses protègent beaucoup plus, mais pas complètement non plus. La bonne nouvelle, c'est que ces cas de réinfection ne produisent que très rarement une forme grave. Enfin, l'émergence au Danemark en particulier d'un sous-variant d'Omicron, baptisé BA.2, doit-il faire craindre d'être réinfecté après Omicron ? À vrai dire, personne aujourd'hui n'en sait rien, mais c'est une hypothèse. Je rappelle qu'en France, on parle de réinfection lorsqu'on est positif à plus de 60 jours d'écart.
Merci Véronique Julia.
La politique avec toujours ce psychodrame à droite de la droite.
Oui, l'eurodéputé Nicolas Bay a refusé hier d'affirmer qu'il serait derrière Marine Le Pen jusqu'au premier tour de l'élection. Il pourrait suivre le même chemin que Gilbert Collard et Jérôme Rivière, ses collègues passés il y a quelques jours du côté d'Éric Zemmour. Une semaine décidément compliquée pour la candidate du RN, alors que sa nièce, Marion Maréchal, a assuré qu'elle ne la soutiendrait pas et fait un grand pas vers son rival. Ça ravive 40 ans de querelles familiales. Simon Le Baron.
Ça nous rajeunit, dit ce conseiller de Marine Le Pen, qui rit jaune en voyant Bruno Maigret sortir de sa retraite pour soutenir Éric Zemmour, l'ancien bras droit de Jean-Marie Le Pen, devenu ennemi numéro 1 à la fin des années 90. vient surtout rappeler que l'extrême droite a l'habitude de laver son linge sale en public.
Ceux qui veulent partir partent, mais ils partent maintenant. Parce que ce qui est insupportable, c'est la taqiya, en quelque sorte, qu'ils reprochent eux-mêmes aux islamistes. La taqiya, c'est la dissimulation. Je considère qu'on peut, encore une fois, changer de camp, mais il faut le faire maintenant.
Marine Le Pen, hier à Madrid, où les querelles intestines ont éclipsé sa tentative d'afficher une crédibilité internationale aux côtés de ses alliés hongrois ou polonais. Le quasi-ralliement de sa nièce, Marion Maréchal, à Éric Zemmour et les défections qui pourraient suivre mettent au grand jour la fracture des extrêmes droites françaises. Le camp identitaire et réactionnaire, désormais incarné par l'ancien polémiste, contre la ligne dédiabolisée que les lepénistes appellent nationale et populaire. Par ses déclarations tapageuses, la candidate du Rassemblement national espère précipiter la clarification pour éviter que les trahisons se transforment en feuilletons.
Clarification, c'est pas beaucoup plus clair à gauche. On connaîtra le résultat de la primaire populaire en fin d'après-midi. Soit Christiane Taubira échoue et sa pré-campagne s'arrête, soit elle gagne et ce sera le statu quo puisque personne à gauche n'a l'intention de se rallier à elle. L'écologie et la justice sociale, c'est nous, disait hier encore Yannick Jadot à Lyon. À l'étranger, une commémoration douloureuse. Le 30 janvier 1972, il y a donc 50 ans tout juste, 13 civils étaient tués par l'armée britannique à Derry, en Irlande du Nord. Épisode tragique de cette guerre civile baptisée pudiquement les Troubles. Ils participaient à une marche pacifique organisée par les catholiques pour protester contre la politique d'internement instaurée un an plus tôt. Malgré les accords de paix il y a 20 ans maintenant, les habitants de Derry peinent à fermer les plaies du passé. Même les jeunes qui n'ont pas connu cette période font communauté à part. Reportage à Derry, donc, de Laura Taouchanoff.
Une grande muraille encercle toujours le quartier catholique du Bogside. Ici, les clichés résistent, 20 ans après la paix.
Les catholiques pensent que les protestants sont mauvais, qu'ils ont de plus belles maisons, plus d'argent.
L'uniforme vert de Lucie peut l'expliquer. Dans son collège catholique, elle ne côtoie jamais de protestants.
J'aimerais qu'on mélange les écoles pour qu'on puisse parler à des gens de milieux différents. La plupart des protestants vivent de l'autre côté de la rivière, alors on ne peut pas se rencontrer.
Construit il y a 10 ans, le Pont de la Paix a bien tenté de rassembler les deux communautés, mais l'histoire continue d'être enseignée différemment des deux côtés de la rivière Foyle. À 23 ans, Stephen le traverse tous les jours et il aimerait bien passer à autre chose.
Qu'est-ce qu'on peut y faire 50 ans après ? Certains ne lâchent pas l'affaire, mais nous n'étions même pas nés. C'est sans fin.
C'est justement pour éviter cet héritage toxique que Jane Buckley vient d'écrire une série de romans. Elle raconte les troubles vus des deux côtés du conflit.
Les maladies mentales sont encore très répandues et ça impacte forcément les enfants en grandissant. On a de la chance aujourd'hui. On a fait tant de chemin.
Preuve que Derry avance, de plus en plus d'associations organisent des activités intercommunautaires. L'objectif, que les erreurs du passé ne se reproduisent jamais. Derry, Laura Taouchanoff, France Inter.
Le dossier ukrainien, la Grande-Bretagne propose à l'OTAN un déploiement majeur de troupes, de navires de guerre et d'avions de combat en Europe pour répondre à ce que Boris Johnson appelle l'hostilité russe envers l'Ukraine. La Corée du Nord a lancé son plus puissant missile balistique depuis 2017, d'après son voisin du Sud. Cet essai d'armement est le 7e mené depuis le début de l'année. Dans un discours en décembre dernier, Kim Jong-un avait réaffirmé son engagement en faveur de la modernisation de l'armée. En France, le patient qui avait fugué d'un hôpital psychiatrique de Toulouse et considéré comme dangereux a finalement été arrêté à Paris, dans le 9e arrondissement. Philippe Bourri.
Comment s'est-il échappé de l'hôpital psychiatrique ? Comment a-t-il réussi à rejoindre la capitale ? C'est ce que devront rapidement déterminer les enquêteurs. Pour l'heure, les circonstances de son arrestation ne sont pas encore connues, mais cet homme de 43 ans, qui a pris la fuite vendredi après-midi, a été interpellé hier soir à Paris, à plus de 700 km de son point de départ. Mis en examen en 2011 pour viol sur sa compagne, il avait été jugé pénalement irresponsable avant d'être hospitalisé. En 10 jours, ce sont 4 patients qui ont réussi à s'échapper d'une unité psychiatrique à Toulouse. 3 de l'hôpital Marchand, le 4e des urgences psychiatriques du CHU Purpan. Tous ont été retrouvés. L'agence régionale de santé a demandé l'ouverture d'une enquête administrative et a diligenté une mission d'inspection. Elle a également demandé de renforcer la sécurité dans les services de psychiatrie des hôpitaux de Toulouse afin d'éviter toute nouvelle fugue de patients.
Le policier soupçonné d'avoir tué sa compagne de 29 ans, dont le corps a été retrouvé dans son appartement à Paris, est toujours en fuite. Ce dernier avait été placé en garde à vue en 2019 pour des violences sur sa compagne de l'époque. Il avait fait l'objet d'un avertissement. À partir du 1er février, la semaine prochaine, pour mieux lutter contre les violences conjugales, les autorités devront systématiquement avertir les victimes de la sortie de prison de leur conjoint violent. C'est souvent à ce moment-là que le risque d'agression est le plus fort.
Yves Saint-Laurent entre au musée. Le génie de la mode s'expose dans pas moins de 6 musées parisiens, 60 ans après son premier défilé.
Oui, car l'inventeur du tailleur pantalon qui a révolutionné les codes de la mode féminine était aussi très inspiré par l'art, de la Renaissance au cubisme en passant par l'impressionnisme, Van Gogh, Mondrian, Picasso. Il cherchait en quelque sorte à transformer la femme en tableau. Aurélie Samuel du musée Yves Saint-Laurent en témoigne.
C'est vraiment le premier couturier qui a définitivement finalement lié l'art à la mode. Et ça remonte à 1965 où il crée pour la collection automne-hiver la robe Mondrian et où c'est une véritable transposition du tableau vers une robe. Ça n'est pas simplement une inspiration du motif géométrique ou ça n'est pas simplement une imitation du motif, c'est vraiment une problématique de porter un tableau transformé en robe sur soi. Il ne faut pas oublier que le vêtement, on le porte sur le corps. Donc il accroche la lumière d'une certaine manière. Et ça rend encore la matière encore plus vivante. Donc c'est comme s'il y avait une prolongation de la vie du tableau à travers le vêtement. Mais il ne faut pas oublier que Pierre Berger et Yves Saint-Laurent étaient de très grands collectionneurs. Donc il avait aussi, bien sûr, une inspiration littérale en ayant des œuvres d'art sous les yeux.
Aurélie Samuel avec Amélie Perrier. Et du génie, il y en a aussi dans le sport.
Eh bien, on va le vérifier tout de suite.
Avec cette finale, bonjour Laetitia, pardon, bonjour Laetitia Bernard, on reprend dans l'ordre et on fait ça gentiment. Avec donc une finale vraiment pas comme les autres pour Rafael Nadal.
Bah oui, on sait bien qu'il a quand même l'habitude des matchs importants, hein, Rafael Nadal, et des grands rendez-vous. Mais là, quand même, à l'Open d'Australie, dans un peu moins de deux heures pour le coup d'envoi, mais il y a le record des titres en Grand Chelem à aller chercher. Et celui que Novak Djokovic a manqué, il n'y a pas si longtemps. Attention, sur le court face à Rafael Nadal, c'est le Russe numéro 2 mondial, redoutable Daniil Medvedev qui vise lui un deuxième titre majeur. Mais Fabrice Abgral, Rafael Nadal, il sait qu'il a rendez-vous avec l'histoire.
Ce que Novak Djokovic n'a pas pu faire l'an passé à l'US Open, Rafael Nadal a l'occasion de le réussir en Australie. L'Espagnol, après le Serbe, peut entrer à son tour dans l'histoire en remportant ce fameux 21e trophée majeur et détenir seul devant Federer et Djokovic le mythique record du nombre de titres du Grand Chelem. Rafael Nadal disputera sa 29e finale au plus haut niveau, la 6e à Melbourne. Mais l'Espagnol ne s'est imposé qu'une seule fois, en 2009. Il avait alors 22 ans, il en a aujourd'hui 35. Nadal n'avait plus disputé de finale en Grand Chelem depuis un an et demi, depuis sa victoire à Roland-Garros en 2020. Et cette finale à Melbourne, il ne s'y attendait pas vraiment. Et pour cause, il a été écarté des cours durant 6 mois en raison d'une blessure au pied. Il a repris la compétition le 3 janvier dernier et depuis, il est invaincu. Il a remporté un tournoi de préparation à l'Open d'Australie et là, à Melbourne, il a signé 6 victoires de rang, une 7e, et ce sera le couronnement et l'apothéose. Il pourra même prétendre peut-être à terme au titre de plus grand joueur de tous les temps, à moins que Daniil Medvedev n'arrête Rafael Nadal dans son élan, comme le Russe a su stopper Djokovic en finale à l'US Open.
Et on verra cela à partir de 9h30. On souhaite aussi, en tout cas, à Daniil Medvedev de savoir garder ses nerfs, pas comme en demi-finale. Et oui, contre Tsitsipas, parce que le Russe a quand même écopé d'une amende de 7 500 € de la part des organisateurs pour conduite antisportive et obscénité visible. En fait, c'est sa manière d'interpeller l'arbitre qui avait posé souci.
Bon, eux aussi, ils entrent dans l'histoire, celle de la Coupe de France de football.
Alors, est-ce que Bergerac, dans le costume du petit poussé, va faire aussi bien face à Saint-Etienne aujourd'hui que Versailles face à Toulouse hier? Et oui, c'est la magie de la Coupe de France. Versailles, Royal, Impérial même, qui est le club qui joue en National 2, soit en 4e division, a sorti le leader de Ligue 2 et s'est qualifié en quart de finale. Chez les grosses cylindrées, qualification aussi hier de l'Olympique de Marseille, vainqueur de Montpellier au tir au but. Et chez les féminines, démonstration de force du Paris Saint-Germain qui élimine l'Olympique lyonnaise de la Coupe de France, des Lyonnaises battues 3-0.
Et puis objectif, médaille de bronze pour les handballeurs français.
Oui, c'est pas forcément la couleur dont ils rêvaient, mais ça permettrait de finir l'Euro sur une bonne note. Et pour cela, va falloir battre le Danemark cet après-midi. Tout va se jouer, non pas vraiment au physique, mais au mental, explique le capitaine des Bleus, Valentin Porte. Va falloir aller chercher dans les dernières réserves.
C'est pas forcément la meilleure équipe chilienne, c'est celle qui arrive à se remobiliser le mieux parce que c'est, que ce soit eux ou nous, on a quand même l'habitude d'aller chercher la médaille d'or. Donc c'est vrai que se retrouver là, après une déception demi-finale, bah, c'est très dur de se remobiliser. Il va falloir trouver les mots, il va falloir trouver l'énergie surtout parce que mine de rien, surtout dans la tête, j'ai senti un petit coup de mou quand même général, ce qui est logique, hein, la compétition est longue. Maintenant, bah, il va falloir tirer sur des ficelles pour essayer de retrouver une certaine énergie, un second souffle pour aller chercher ça, quoi.
Donc le match pour la médaille de bronze, il est à 15h30 et on va pas être chauvin. Je vous donne quand même l'affiche de la finale pour la médaille d'or entre la Suède et l'Espagne ensuite.
Merci Laetitia. Elle porte le doux nom de bombe cyclone, hein, c'est-à-dire une grosse tempête de neige qui a sévi sur le nord-est des États-Unis. Une bonne couche de poudreuse et un gros coup de vent. New York s'est mise en mode blizzard. On y retrouve notre correspondant Loïc Glory.
Près de 80 000 foyers toujours privés d'électricité dans la soirée, 60 cm de neige environ à Boston et 3500 vols annulés. Voilà le bilan de la première grosse tempête hivernale de l'année aux États-Unis, à compter de vendredi soir et jusqu'à hier en fin de journée. De fortes rafales de vent et de grandes quantités de neige ont touché le nord-est américain et ses grandes métropoles, Boston, New York ou Philadelphie. Une tempête qualifiée de bombe cyclone par les services météo du pays. L'état d'urgence face à cette alerte au blizzard avait été décrété dans plusieurs états. La population invitée à rester chez elle et à ne surtout pas prendre le volant. La Maison-Blanche, elle assurait surveiller la situation. À l'arrivée, les consignes semblent avoir été respectées. L'épisode a surtout été l'occasion de voir des New-Yorkais skier sur le Brooklyn Bridge. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et que notre météo paraît calme de l'autre côté de l'Atlantique.
Eh bien, exactement, Christelle Robière, on voit ça tout de suite.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Cela dit, Jean-Michel Golinski, attention au brouillard givrant.
Des brouillards souvent givrants au réveil dans le quart sud-ouest où les températures sont négatives. En journée, le ciel va rester bouché de part et d'autre de la Garonne. Sur le reste du pays, les températures du début de la journée sont positives sous un ciel qui s'éclaircit rapidement au nord de la Seine, puis jusqu'aux limites de la Loire et du nord-est en journée. Le long des Pyrénées, du golfe du Lion au Cantal et sur les Alpes, le temps sera très ensoleillé. Notez que les nuages se feront plus nombreux sur la Côte d'Azur et la Corse au fil de la journée, avec toujours pas mal de vent en Méditerranée. Et puis sur une large bande centrale du pays, l'ambiance sera souvent maussade. Cet après-midi, il fera 10 à 12 degrés sur la Bretagne, 15 à 17 sur le bassin méditerranéen, jusqu'à 19 degrés sur les Pyrénées orientales et généralement 5 à 8 partout ailleurs.
Jean-Michel Golinski, Météo France.